Et donc l'homme que vous allez découvrir dans un instant, encore le goût du ver de terre dans la bouche, Charles Foster, c'est son nom, est vétérinaire chargé de cours à Oxford. Il a mené sur plusieurs mois une expérience sidérante en se mettant dans la peau d'animaux sauvages. Du blaireau au renard, en passant par le martinet ou le cerf, Foster a tenté de voir le monde à hauteur d'animaux et pour ce faire, il a donc creusé un terrier, nagé des jours entiers dans une rivière anglaise pour vivre comme une loutre et tenter de se mettre dans la peau d'un renard des faubourgs de Londres. Il en ressort un livre plein d'humour qui a été classé dans les meilleures ventes en Angleterre et aux États-Unis. Livre qui est enfin traduit en France. Charles Foster est mon invité dans un instant avec Dans la peau d'une bête qui sort chez Jean-Claude Lattès. Vous pouvez lui envoyer vos messages et vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
À la une de la science aujourd'hui, des millions d'hectares de forêts révélés par des chercheurs.
Oui, 460 millions d'hectares en plus découverts grâce aux images satellites et une couverture forestière totale pour la planète qui grimpe de presque 10%. On en discute avec l'expert des Nations Unies à l'origine de ces travaux, Jean-François Bastin.
Et puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de Science Improbable de Pierre Barthélémy qui va nous parler d'un placebo pour soigner le chagrin d'amour. C'est Stéphanie Texier qui réalise aujourd'hui l'émission.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Charles Foster.
Good morning Charles Foster.
Good morning, great to be here.
Bienvenue en France.
Avec vous.
Vous êtes dans notre pays à l'occasion donc de la parution de Dans la peau d'une bête qui paraît chez Jean-Claude Lattès et dans lequel vous nous racontez la vie à hauteur d'animal. Est-ce qu'il s'agissait pour vous au départ de mener une expérience scientifique?
It's hard to dignify it as a scientific experiment.
It was far too much fun. Je ne peux pas dire que c'est une expérience scientifique. C'était beaucoup trop rigolo. Ce n'était pas très systématique. Ceci dit, j'ai essayé de rentrer dans la peau des différentes espèces non humaines. Il y a différentes façons de faire ça. Il y a des façons rigoureuses, évidemment, mais moi, je n'étais pas spécialement rigoureux.
En tout cas, personne n'est jamais allé aussi loin. Visiblement, on va se retrouver dans un instant pour comprendre ce que cela fait que d'être une loutre, un renard ou un cerf. Et vous répondrez aux messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission.
La science de l'environnement. En partenariat avec Reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Et c'est un peu comme si nous venions de découvrir une deuxième forêt amazonienne, un travail de cartographie des zones arides de la planète mené par les experts des Nations Unies et qui révèle aujourd'hui 467 millions d'hectares de forêts en plus, jamais répertoriées. Elles sont présentes d'ailleurs surtout en Afrique et en Australie. Une actualisation de la connaissance des écosystèmes de la planète, donc une couverture forestière mondiale revue de 10% à la hausse. Bonjour Jean-François Bastin.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Merci d'être en ligne avec nous. Vous êtes consultant pour les Nations Unies, expert en écologie forestière et télédétection et coordinateur justement de ces travaux. Comment est-ce qu'on a pu passer à côté de 467 millions d'hectares de forêt à l'ère des satellites, des drones et des radars?
C'est une bonne question. Donc en fait, c'est principalement lié à une limite des produits qui existaient précédemment. Donc ils n'étaient pas capables, si vous voulez, qui n'avaient pas une résolution spatiale assez développée que pour intercepter des forêts ouvertes, en fait, que l'on retrouve un petit peu partout dans les zones arides. Donc, si vous voulez, en fait, ces forêts ouvertes, quand on les regarde de l'espace, quand on les regarde d'un satellite, on peut voir, en fait, qu'elles présentent un mix, en fait, d'un signal de végétation et de sol. Et si on a une résolution trop grossière que pour les intercepter, donc si par exemple un pixel en fait est trop gros, est trop large, c'est par exemple 250 mètres sur 250 mètres, c'est un petit peu difficile de distinguer un signal de végétation d'un signal de sol. En fait, le signal qu'on perçoit, c'est un mélange des deux. Et donc c'est pour ça en fait qu'en général, les méthodes classiques qui utilisaient ces satellites pour faire état des lieux de la couverture de forêt ne les interceptaient pas.
Alors qu'est-ce que c'est une forêt ouverte? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial ces forêts-là?
Mais ces forêts ouvertes, en général, sont présentent également en fait d'autres espèces, hein, des espèces qu'on ne trouve pas en zone tropicale, sont des espèces qui sont particulièrement adaptées en fait à des conditions arides extrêmes, et ça peut se traduire en fait par différents phénomènes. Un des phénomènes, par exemple, qu'on retrouve beaucoup en fait dans ces zones-là, c'est que ces arbres ont tendance en fait pour résister à des températures très importantes, à des conditions d'évapotranspiration potentielle très importantes, elles ont tendance à perdre leurs feuilles. Et donc du coup, si elles perdent leurs feuilles, eh bien essayer de détecter un signal de végétation par satellite, ça devient très compliqué, quoi, très difficile.
Mais vous avez travaillé avec des images satellites, alors comment est-ce que vous avez fait pour les voir?
Ah oui, tout à fait, mais nous n'avons pas exactement travaillé avec les mêmes images. Nous avons travaillé des images satellites qu'on appelle à très haute résolution spatiale, donc où les pixels ici ne font pas de l'ordre de 30 à 250 mètres, mais ils présentent une taille inférieure à 1 mètre, donc ça permet vraiment de distinguer presque chacun des arbres. Et puis nous n'avons pas travaillé avec une méthode de détection automatique du signal de végétation, nous avons travaillé par photo-interprétation, c'est-à-dire que c'est un opérateur, un être humain, qui en fait a compté et a déterminé la couverture en fait de végétation sur des échantillons, sur des parcelles.
Alors vous annoncez 210 000 clichés, ça veut dire qu'un par un humain a analysé 210 000 clichés satellites ?
Alors ce sera un peu fastidieux. Donc, donc l'avantage de l'FAO, c'est que nous pouvons coordonner en fait le travail avec différents bureaux nationaux. Mmh. Et donc nous avons travaillé et coordonné le travail avec plus de 239 opérateurs.
Alors, j'imagine que la question au cœur de vos travaux, c'est comment on définit une forêt à partir d'une photo. Comment on différencie une image où il y a quelques arbres et une image où on voit une forêt ?
Oui, alors donc ça ici, ça dépend de la définition de la forêt. Il existe en fait plusieurs définitions de la forêt. Parfois même, chaque scientifique en fait qui développe une carte de forêt développe sa propre définition de la forêt. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé un produit qui peut s'adapter à toute définition. Et comme ça, on peut l'utiliser dans tout type de projet et on peut le comparer avec tout type de produit. Et en général, cette définition de forêt, l'élément clé en fait sur lequel on se base, c'est la couverture, une couverture limite en arbres sur une superficie donnée. Et donc, par exemple, pour les FAO, la couverture limite inférieure, en fait, pour pouvoir considérer une zone comme étant une forêt, est une couverture de 10%. Donc, 10% d'une zone doit être couverte, en fait, par des arbres.
Mmh. Alors, la question que tout le monde se pose et qu'on s'est posée dans le bureau ce matin, c'est est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la planète, ces 10% de forêt en plus ?
Alors, oui et non, dans le sens que, en fait, donc j'ai vu beaucoup aussi de commentaires sur les réseaux sociaux, notamment, en fait, qui font état des lieux que, comme si on avait découvert 10% en plus, on aurait peut-être 10% de carbone en plus, on pourrait capter beaucoup plus de gaz carbonique, en fait, via ces forêts. Donc ça, il ne faut pas tout mélanger, c'est pas vraiment le cas. Ces forêts, elles ont toujours existé. Donc maintenant, disons que, donc c'est pas une bonne nouvelle pour ça, si vous voulez. Par contre, c'est une très bonne nouvelle dans le sens que maintenant qu'on arrive à les détecter, eh bien, on peut mettre en place des stratégies pour pouvoir les conserver et également des stratégies pour pouvoir faire de la reforestation dans ces zones-là. Parce que le fait qu'on est capable de détecter des forêts dans ces zones arides et de montrer qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pensait à échelle globale, ça permet de mettre, si vous voulez, le focus sur ces zones-là et ça permet de montrer tout le potentiel qu'ont ces zones arides pour la reforestation. Donc finalement, ces zones arides dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'activité économique, il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas de grosses industries, ben ça constitue des vraies opportunités pour la reforestation.
Mais Jean-François Bastin, ça ne va rien changer quand même pour le calcul du bilan carbone, ces arbres qui absorbent justement le carbone ?
Alors, là où ça va changer peut-être dans le bilan carbone, mais je ne suis pas moi allé très très loin pour l'instant encore dans les réflexions à ce niveau-là à partir de nos résultats, c'est le fait que quand on calcule le bilan carbone, on regarde ce qu'on a dans l'atmosphère, on regarde ce qu'on a dans les océans, et on regarde ce qu'on a dans la biosphère. Et on regarde ensuite les échanges entre ces différents compartiments. Et les forêts donc se retrouvent dans la biosphère, et ici le fait est que donc on montre qu'il y a plus de stock potentiellement que ce qu'on pensait dans la biosphère. Donc ceci peut influencer les calculs qu'on fait sur le bilan carbone et donc les calculs qui peuvent être faits sur tout ce qui est changement climatique. Mais ici, il y a plusieurs facteurs en fait qui rentrent en compte. Et donc il faut vraiment prendre avec des pincettes en fait je peux pas vous dire en fait si ça va être forcément positif ou négatif, parce que par exemple si dans certains calculs on regardait ce qu'on avait dans la biosphère et qu'on sait ce qu'on a de manière totale dans la biosphère, ben ça nous permettait de savoir en fait quelle était la densité de carbone par unité de surface. Ici si on voit en fait que finalement on avait plus de surface mais qu'on a la même quantité totale, ça pourrait peut-être en fait signifier qu'on a moins en fait par unité de surface de stock de carbone. Donc c'est juste voilà, c'est juste ici un exemple pour vous montrer que potentiellement voilà, ce n'est pas une augmentation de stock de carbone dans la biosphère.
Alors, ce que vous disiez, c'était que c'est la reconnaissance en termes de forêt officiellement par les Nations Unies qui est importante. Qu'est-ce que ça va changer pour leur gestion, pour les populations locales ?
Alors oui, c'est très important pour les populations locales. Et donc, les Nations Unies sont en ce moment même en train d'utiliser en fait les données ici qu'on a collectées dans notre projet pour en fait essayer de travailler sur la reforestation en zone aride, ce qui est très important pour les populations locales, notamment dans le Sahel, parce que vous avez énormément de populations en fait qui sont dépendantes du peu de végétation en présence pour l'élevage, par exemple. Il y a beaucoup de gens en fait de populations nomades en fait qui vivent en fait de leur élevage et ils ont vraiment besoin en fait d'avoir le peu de végétation qu'il y a là-bas pour pouvoir subsister avec en fait voilà leur méthode de subsistance, si je peux dire.
Alors justement, Jean-François Bastin, ces millions d'hectares de forêts découvertes, ils se trouvent où principalement sur la planète hein ?
Alors, ils se trouvent éparpillés un petit peu partout, mais disons qu'on les retrouve principalement dans les zones en fait qui présentent de grosses étendues de zones que l'on appelle semi-arides, c'est-à-dire ce sont des zones qui ne sont pas hyper arides, donc ce ne sont pas les zones les plus arides, mais ce ne sont pas non plus les zones arides subhumides, donc qui sont vraiment proches, on va dire, des zones tropicales. Donc ce sont les zones intermédiaires. Ces zones-là sont particulièrement étendues en Afrique et en Australie. Et ce sont dans ces deux zones-là que l'on retrouve en fait le plus, on va dire, donc entre guillemets, de nouvelles forêts, vu qu'elles existaient déjà.
Et quels sont les arbres alors qui peuplent ces forêts? Quelques espèces, s'il vous plaît.
Alors oui, donc il y a beaucoup d'espèces différentes, mais si on peut en citer que quelques-unes, qui sont un peu des espèces qui vont parler à tout le monde, on peut parler donc du baobab, on peut parler des forêts d'acacia et d'eucalyptus, par exemple, qui sont un petit peu présentes en Afrique, au Madagascar, en Australie, beaucoup.
Merci beaucoup Jean-François Bastin, merci pour ces révélations et puis pour le travail effectué, c'est assez impressionnant, 467 millions d'hectares de forêt comme ça en plus, même si effectivement ils existaient déjà, publication donc qui vient juste de paraître. Merci à vous et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une découverte historique au centre de l'Égypte, le département des fouilles archéologiques de l'université du Caire annonçait samedi la mise au jour de plus de 17 momies dans des catacombes de la province de Minya au sud du Caire. Cette cache datant de l'époque gallo-romaine et découverte sous la grande nécropole de Touna El Jebel contenait plusieurs sarcophages, dont 6 en pierre et 2 en argile. C'est la plus grosse moisson de momies humaines jamais découverte dans la région et tout le travail de restauration reste encore à faire pour identifier qui étaient ces prêtres et ces fonctionnaires morts il y a 2000 ans. C'est l'histoire d'un cuisinier turc étourdi qui a laissé brûler sa préparation il y a 9000 ans. Et grâce à lui, nous savons que les habitants de Kataloyuk, l'une des plus vieilles villes de l'histoire, mangeaient déjà du pain. Nicolas Constant, sur son blog Pour le Monde, nous raconte comment les chercheurs de l'University College de Londres ont fait carboniser différentes pâtes à base de blé et d'orge pour les comparer aux résidus découverts sur place et enfin confirmer la nature de ce repas raté. Et cerise sur le gâteau, il montre que ce pain, vieux de presque 10 000 ans, était agrémenté de quelques graines de plantes sauvages proches de la moutarde, sans doute pour rehausser le goût. Il s'agit certainement de la plus ancienne preuve d'utilisation de condiments. Et puis pour finir, attention aux blessures dues aux avocats. Un groupement de chirurgiens britanniques alerte les consommateurs de ce fruit face à la recrudescence des blessures parfois graves qu'il engendre. Le responsable étant bien sûr toujours ce noyau fermement accroché dont l'extraction est à l'origine de nombreux accidents. Des coupures de la paume entre le pouce et l'index qui peuvent mener à la section des tendons et des nerfs. Les cas sont en forte augmentation, tout comme la consommation de l'avocat, si bien que les chirurgiens ont inventé un nom spécifique pour ces cas d'accident, les mains avocats. Dans le Times, un médecin londonien explique devoir opérer plus de 4 mains avocats par semaine. Allez, il s'est mis dans la peau des bêtes, il est notre invité dans un instant, Charles Foster.
Me up and down with a name on me.
Radio, Raphaël Sadik à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et Charles Foster, mon invité cet après-midi à l'occasion de la sortie en France de son ouvrage Dans la peau d'une bête qui paraît chez Jean-Claude Lattès. C'est Grace Coston qui va assurer la traduction de notre entretien pour parler donc de cette expérience très originale qui lui a permis de se mettre dans la peau tour à tour d'un blaireau, d'une loutre, d'un renard, d'un cerf et d'un martinet. Et vous pouvez nous rejoindre avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Charles Foster, faut-il avoir le brin de folie et l'humour d'un Anglais pour être capable de mener l'expérience que vous avez vécue pendant plusieurs mois et qui consistait donc à devenir une bête?
I think you've got to be a child. Every
je
child
pense qu'il faut
I
être un enfant. Tous les enfants que je connais adorent grimper par terre. Regardez les enfants ordinaires jusqu'à 6, 7 ans, ils ne sont pas des... ils marchent pas à deux pieds, ils préfèrent être à quatre pattes, ils parlent avec des chiens, ils pensent que des chiens parlent, ils se couchent avec des oursons, et ils ont vraiment une relation vraie avec des animaux. Et je pense que nous perdons beaucoup en devenant adultes. Et nous perdons notre capacité naturelle à communiquer avec le monde naturel. Est-ce que je suis bizarre? Peut-être, mais j'essaie de penser que je suis plutôt enfantin.
Donc vous êtes un grand enfant.
So you're a big child.
I hope so.
Oui.
Oui, j'espère l'être.
C'est ce que vous enseignez à vos étudiants d'Oxford?
J'espère que je leur apprends à être comme un enfant dans le sens où ils doivent être ouverts au monde. En tant qu'adultes, nous sommes souvent fermés. Nous perdons beaucoup de ce qu'on pourrait recevoir du monde par rapport à les sensations et les informations qui pourraient nous parvenir.
Charles Foster, on a le sentiment que votre expérience rentre dans une certaine tradition naturaliste typiquement anglo-saxonne et qui consiste à aller avec humour justement au plus près du sujet étudié. Vous parlez-vous d'une sorte de chamanisme littéraire ?
Oui,
je pense que ce n'est pas quelque chose d'unique. Je crois que les êtres humains essaient de faire ça tout au long, chacun tout au long de sa vie, cherche à faire ça. Toutes les sociétés, à part les nôtres, ont eu des chamans et les personnes ont souvent traversé cette frontière un peu floue entre le monde animal et le monde humain. Sans doute que j'ai un point de vue très britannique, mais en fait, ce que je faisais était très ordinaire. J'essaie de voir le monde d'un bois, d'un sous-bois, d'une rivière, par les yeux et le nez de ces créatures qui sont mieux équipées pour le percevoir que nous, pour des bêtes qui utilisent tous leurs sens pour percevoir le monde. Et nous pourrions faire ainsi aussi si on essayait un peu plus.
Est-ce que vous vous sentez dans la droite ligne de votre compatriote Charles Darwin qui a écrit par exemple ce livre que vous citez, hein, L'expression des émotions chez l'homme et chez les animaux?
About expressions with, made by men and animals.
I think that that particular book of Charles Darwin.
Je pense que ce livre de Darwin est quelque chose qu'il faudrait lire et relire. C'est un de ses titres qui n'est pas lu assez souvent. Oui, avec Charles Darwin, sans doute, parce qu'il a parlé de la fluidité des frontières entre les espèces. Une espèce peut devenir une autre. Et nous avons parfois des idées un peu endurcies sur les espèces. Nous oublions qu'il y a eu des relations de base entre les êtres humains et les animaux. Bien sûr, l'être humain est spécial et différent de nombreuses façons. Mais nous avons des liens avec nos cousins animaux. Si on regarde un peu en arrière, je peux trouver dans ma lignée des êtres dotés de poils ou de plumes.
En tout cas, Charles Foster, ce qu'on retient beaucoup dans ce livre, c'est qu'en se mettant à hauteur d'animal, il y a des façons très très différentes de voir le monde. Et ça, on l'oublie parce que tout est fixé selon notre cerveau d'humain. Mais vous avez tenté justement de nous mettre à différents niveaux du sol.
Right. So, we...
Oui.
Grew up on the plains of East Africa,
sur les plaines de l'Afrique de l'Est, l'être humain s'est dressé sur ses deux pieds, donc c'était un voyage d'environ 2 mètres. Et En faisant ce voyage, en se levant du sol, nous avons perdu la connexion avec le sol. Or, cette connexion était la connexion aussi avec notre cousin de l'évolution. Bien sûr, nous avons pu voir autre chose une fois qu'on s'est dressé, nous avons pu voir plus loin, mais nous sommes devenus en fait des bêtes qui sont tyrannisées par notre sens de la vue. Moi, quand je me balade dans un bois, je vois l'arbre. Et tout de suite, c'est Charles Foster qui se met à réfléchir sur l'arbre. Bon, ça peut être des belles idées, une bonne réflexion, mais ce n'est pas très précis. Si je me baisse au niveau du sol, si je dépasse toutes ces millions d'années d'évolution, je peux éveiller d'autres sens, des sens que nous oublions souvent au quotidien. Nous pouvons sentir avec nos nez, et tous ceux qui apprécient les bons vins vous le diront. Il s'agit d'être plus attentif aux informations que nous pouvons percevoir par tous nos sens. Peut-être que je suis un peu étrange, peut-être que c'est très britannique, mais cela peut nous aider.
D'ailleurs, on a un auditeur qui nous dit, votre invité, Charles Foster, sait-il que les personnes qui font la même chose que lui, mais qui n'écrivent pas de livres, finissent en général dans un asile?
Je pense que cet auditeur devrait aller à la campagne. Réaliser sa connexion avec le monde naturel. Et explorer tout ce que nous perdons quand nous oublions ces connexions avec le monde naturel. En tant que membre d'une société moderne, nous avons tout un tas de névroses qui sont causées par cette brisure. Quelqu'un qui est cynique, un PDG cynique qui veut pousser ses employés, il faudrait que ses employés regardent vers les arbres, par exemple, qu'ils aient une fenêtre sur les arbres. Nous savons que les enfants qui n'ont pas accès au monde sauvage ont des problèmes d'attention, ont des problèmes d'hyperactivité et de dépression. Nous savons tout ça. Les enfants autistes peuvent être aidés si on les amène dans un champ, dans un pré. Et pourquoi cela? Parce que, qu'on le veuille ou non, nous faisons partie du monde naturel. Et le fait de se séparer de ce monde en nous mettant dans des villes est extrêmement anormal, je dirais même pathologique. On me demande si mes enfants sont tombés malades pendant ces expériences. Bien sûr que non. Nous avons des systèmes immunitaires qui sont faits pour le monde naturel. Nos systèmes immunitaires ne sont pas faits pour l'environnement citadin. Et avec tout le respect que je dois à l'auditeur, c'est lui qui pose la mauvaise question, parce que moi je fais ce que l'être humain devrait faire pour son bien-être psychique et physique.
On parlera de votre fils de 8 ans, entre autres, que vous avez emmené dans votre terrier, qui a léché des limaces, qui s'est fait piquer par un mille-pattes et qui s'en est sorti très très bien, on en rediscutera. Charles Foster, est-ce que la difficulté de cette expérience, ça n'était pas justement de tomber dans le piège de l'anthropocentrisme et de l'anthropomorphisme? Est-ce que vous avez échappé à cela?
Bien sûr, c'était un risque. Mais je pense que le péché de l'anthropomorphisme est surestimé. Mon cerveau travaille avec les différents sens que je partage avec un certain nombre de mammifères.
Donc,
si je demande comment le renard perçoit le monde, une première chose à faire serait de dire qu'est-ce que moi je vois du monde. On démarre là. Bien sûr, il faut démarrer par là, mais il faut le qualifier. L'anthropocentrisme et l'anthropomorphisme, ce sont des points de départ. C'est dangereux, sans doute, mais on a des choses à apprendre. On peut apprendre des choses du monde des animaux en examinant nos propres mondes.
Allez, Charles Foster, vous êtes notre invité. On ira au cœur de vos expériences dans un instant. On ira se glisser donc dans le terrier du blaireau, par exemple, ou attendre la loutre dans l'eau avec vous juste après Faire Animal et Sans Moi sur France Inter. Et les messages qui arrivent pour vous sur le site de l'émission.
Seras-tu capable de te revoir, de te reconnaître, de te parler ? Seras-tu capable de te prendre dans tes bras, de revenir chez toi sans claquer la porte ?
Seras-tu capable de te donner des nouvelles, de relever le courrier, interroger ton répondeur ?
Seras-tu capable de vider le cendrier, balancer le café foutu, faire entrer l'air de temps en temps ?
Seras-tu capable ?
Contacte-toi, même pas longtemps. Ne jette pas tes vêtements, ne coupe pas le courant. Répare la sonnette, fais quelques courses, invite-toi à dîner.
N'aie pas peur du réveil, de tes pas dans l'escalier. Ne t'oublie pas, ne te lâche pas, ne te fâche pas. Ne dis pas que tu ne veux plus entendre parler de toi, ne plus avoir affaire à toi.
Je parle à qui là ?
Moi non plus. Désert des draps.
Avec cet animal, ça finit toujours comme ça.
Continuez sans moi, ce talent pour la vie, je ne l'ai pas. Alors, continuez sans moi.
À l'intérieur du terrier silencieux, les blaireaux se sont réveillés lentement. Le moment de leur sortie est proche. Pour eux, comme pour les hermines, cet instant du passage entre la sécurité de leur refuge souterrain et le monde extérieur est une véritable épreuve. Leur méfiance est alors à son comble. Il est hors de question de jaillir de son trou sans une inspection minutieuse et quasi maladive de ce qui se passe à la surface. Tous les sens des blaireaux sont à cet instant en alerte. Le plus important est sans conteste l'odorat. La truffe humide et hypersensible capte et analyse en détail le paysage aux mille odeurs auxquelles l'homme n'a pas accès. La vérification est lente, méthodique, et le moindre parfum inhabituel fera retourner le blaireau au fond de son trou.
Voilà, et le blaireau, bien, c'est le cadre de votre première expérience, Charles Foster, celle que vous nous racontez dans ce livre, Dans la peau d'une bête. Et là, vous êtes dans les montagnes noires du Pays de Galles. Vous avez vécu sous terre à différentes époques de l'année. Et vous ouvrez d'ailleurs le chapitre sur la dégustation d'un ver de terre. Alors, c'est probablement d'ailleurs dans votre livre ce qui a suscité le plus de réactions chez les lecteurs, non ?
Je regrette vraiment d'avoir écrit ce passage, car c'est complètement prétentieux. Je parle du goût des vers de terre, comme on parlerait d'un verre de vin avec son terroir, selon la saison, selon le terreau. Bon, bien sûr, les vers de terre ont un goût de terre. Après, il y a une sorte de goût qui varie selon les saisons. Mais je regrette beaucoup ce passage pour plusieurs raisons. Car effectivement, on me pose toujours des questions sur cela. On me dit que je suis fou, voire obscène. Mais encore plus important, je pense que cette expérience d'avoir goûté les vers de terre ne m'a rien appris sur la vie d'un blaireau. Cela m'a juste appris quels mots je pouvais employer pour décrire le goût d'un ver de terre. Donc, en fait, je ne répondais pas à la question de la, quelle est la vie d'un blaireau. Les vers de terre sont dégoûtants. Je ne recommande à personne de manger des vers de terre.
Merci.
Mais je pense que les blaireaux n'ont pas le même avis. Car les blaireaux en Angleterre, 85% de leur régime est composé de vers de terre.
Ouais, alors, comment on vit quand même blaireau au quotidien? Alors, vous avez creusé un terrier, d'ailleurs, je le disais, avec votre fils, Tom, de 8 ans, qui vous a accompagné. Donc, on vit vraiment pendant des semaines comme cet animal?
Right.
Oui.
My mate Bert, with whom I've traveled
mon copain Bert, avec qui j'ai fait beaucoup de voyages plus ou moins agréables, dans différents coins du monde, dans les montagnes noires du Pays de Galles. Et lui, en fait, il a une machine pour creuser, il a creusé un trou, et je suis allée avec mon fils pour y vivre. Et en fait, cette expérience, c'était de travailler sur le paysage olfactif. Nous avons plutôt des paysages visuels, des paysages même imaginaires. Nous avons une vision, nous avons quelque chose que nous voyons et nous créons un autre univers à travers notre vision. Mais nous avons aussi le sens olfactif. Une personne sur trois peut sentir son propre t-shirt parmi trois autres t-shirts qui lui seraient présentés. 50% des êtres humains peuvent identifier notre t-shirt parmi 10 t-shirts qui nous seraient présentés. Nous avons donc un bon sens olfactif, mais on ne le valorise pas assez. Si vous descendez au sol de la forêt, là, vous découvrez beaucoup de choses. La façon dont les odeurs montent lorsque le soleil chauffe la terre, comment les odeurs montent du fond de la vallée vers le haut de la montagne, comment les odeurs peuvent faire des ricochets entre les arbres. C'est comme les marées, en fait. Vous pouvez les lire comme un marin lirait les marées de la mer. Et en fait, vous apprenez qu'il n'y a pas de monoculture dans la nature. Si vous déplacez votre nez de quelques centimètres dans la forêt, vous allez rencontrer des odeurs complètement différentes, un écosystème nouvel. Ce sont des choses merveilleuses que nous avons choisi de ne pas connaître parce que nous avons choisi de vivre en hauteur et non pas au niveau du sol. Et nous sommes donc que des êtres visuels.
Mais Charles Foster, vivre comme un blaireau, ça veut dire aussi dormir dans la journée et sortir la nuit. C'est ce que vous avez fait aussi?
Oui, on a essayé de garder les horaires de blaireau. Si vous avez fait des voyages, des longs voyages en avion, vous savez que on arrive à régler son horloge intérieure. Et c'est assez sympathique d'être dans les bois la nuit. Vos yeux ne vous servent pas, ou beaucoup moins. Donc, c'est une sorte de libération. Quand vous êtes même au sol de la forêt, les yeux ne sont pas très utiles parce que vous ne pouvez pas voir loin. Et vos yeux ne vont pas vous renseigner sur le monde. Il faut prendre les renseignements d'une autre façon, notamment par son nez, par ses oreilles, par le toucher au sol. Donc, vous avez les paumes de la main qui frôlent le sol de la forêt. Vous êtes donc moins isolé, vous êtes plus en contact.
Rémi sur franceinter.fr demande si vous avez, au cours de votre expérience, eu des contacts avec les espèces que vous imitiez. Est-ce que vous avez tissé des liens particuliers avec certaines d'entre elles? Est-ce que, par exemple, vous avez été adopté par un groupe de blaireaux?
Il y avait des blaireaux partout, on les entendait, ils faisaient beaucoup de bruit. Et de temps à autre, on se trouvait nez à nez avec un blaireau. Mais ces blaireaux avaient l'air tout à fait effrayés et ont vite fait de décamper. Nous n'avons pas essayé vraiment de nous intégrer dans une communauté de blaireaux. Lorsqu'il s'agissait des renards, J'avais plus de contact. J'ai eu une rencontre avec un renard qui a changé mon point de vue sur cette espèce. Mais bon, les blaireaux, ils savaient qu'on était là, on savait qu'ils étaient là, mais on s'en fichait un peu. Il n'y avait pas de relation amicale quelconque.
Agnès nous dit, je viens de suivre un stage de chamanisme celtique et donc nos ancêtres, les Celtes, faisaient déjà la même chose pour vivre en harmonie avec leur environnement. J'ai rencontré plusieurs de mes animaux de pouvoir et je suis très saine d'esprit. Nous dit Agnès.
Beaucoup de mes amis ont eu des expériences chamaniques.
I'm far too scared to go down that
Moi, ça me ferait peur, à vrai dire.
Shamanic experiences have been
Les expériences chamaniques sont, ont été très importantes dans différentes communautés humaines, mais moi, ça ne me tente pas parce que je pense que j'aurais trop peur.
Extrait d'un autre documentaire autour des loutres, c'était en 1985.
La loutre est un animal d'une discrétion extrême. Christian Bouchardy, tous les grands spécialistes européens de la loutre s'accordent pour reconnaître que c'est l'animal le plus infernal à observer. Imaginez un animal nocturne et dans l'eau courante. C'est complètement impossible à observer. En plus, les observations qu'on pourrait faire seraient tellement fugitives qu'elles ne donneraient pas d'indication sur la biologie de l'espèce. Donc il nous reste quoi? Les traces? Les crottes, les reliefs de repas, les traces de passage, et puis les terriers qu'on appelle des catiches.
Est-ce que vous avez réussi à photographier les loutres?
Non, non seulement j'ai pas réussi, mais j'ai pas cherché à les photographier. Et je veux surtout pas les photographier, parce que vous savez que malheureusement, une des causes de dérangement de la faune sauvage, c'est la chasse photographique. Je veux dire la chasse photographique mal conçue, mal faite. Dans la mesure où les loutres sont rarissimes aujourd'hui, je trouverais extrêmement regrettable qu'une des causes de dérangement supplémentaire, ça soit la photographie.
Voilà, Charles Foster. Et vous, votre cadre à vous, c'était le parc national d'Exmoor. Vous avez passé près d'une année, en particulier autour d'une rivière parcourue par les loutres. Vous dites-vous qu'être loutre, c'est vivre sous speed en permanence?
Otters have a... Oui. Hugely high basal metabolic rate.
La loutre a
40% higher at rest than that of a domestic dog.
Un taux de métabolisme 40% plus élevé que celui d'un chien, par exemple. 4 fois et demi celui d'un chien.
Donc,
ils ont besoin de manger énormément pour subvenir à leurs besoins, à ces métabolismes tellement actifs.
Donc,
moi, par exemple, si je devais manger comme une loutre, il faudrait que je mange un Big Mac tous les 4 minutes ou 240 boîtes d'haricots par jour. Je pense que quelqu'un qui mangerait autant ne serait pas quelqu'un avec qui vous aimeriez discuter. Et pour moi, c'était un peu la vie que j'avais sur les loutres.
Mais alors, vous avez vécu dans l'eau comme une loutre?
I spent a lot of time in the water, like
J'ai passé
yeah.
beaucoup de temps dans l'eau, oui.
And the sense which I was exploring in the otter chapter
ce
was
que je
hearing.
Explorais dans so ce chapitre, c'était l'ouïe.
Sound travels about
dans
four times
l'eau,
faster than it
le
does
son.
In air. That when you put your head underwater,
il traverse quatre fois
night,
plus vite que dans l'air. Donc si vous mettez la tête sous l'eau la nuit,
sound crowds in.
Vous entendez
are shrunk.
Toutes sortes de sons, les sons lointains paraissent beaucoup plus près, beaucoup de sons arrivent à la fois, une sorte de claustrophobie sonore.
Jean-Paul demande, Charles Foster, en étant dans la peau d'une bête, est-ce que vous vous êtes senti parfois la proie possible d'un prédateur?
That was something that I explored in the Red Deer chapter.
C'est quelque chose que j'ai fait dans le chapitre 5 sur les cerfs.
Avec un chien.
But when I left my university,
quand j'ai quitté l'université,
called by a don into a room and he said, gentlemen, you're about to enter the world.
Un doyen qui m'a appelé et qui m'a dit, bon, peut-être que les plus humbles vont hériter de la terre, mais en attendant, vous avez intérêt à les écraser. Et je pense que, d'un point de vue tragique, c'est un peu comme ça que nous vivons notre vie. Nous essayons d'écraser tous ceux qui sont humbles, tous ceux qui sont en dessous de nous. Et donc, nous sommes effectivement des prédateurs et non pas les proies. Et quand j'étais dans la peau d'un cerf, dans le chapitre sur le cerf, j'ai essayé de me mettre un peu dans la tête de quelque chose qui existe pour être tué. Les cerfs s'attendent à chaque instant à être tués par un loup. Il y a une meute de chiens qui m'a chassé. J'ai essayé de me mettre donc dans l'esprit du cerf, mais bon, j'ai appris certaines choses, des choses sur moi-même peut-être. Par exemple, j'aimerais mieux mourir dans la prairie que dans la forêt. Je pense que c'est parce que nous aimerions mourir plutôt dans les lieux dont on vient et que nous, les êtres humains, nous venons des plaines de l'Afrique de l'Est. Et c'est peut-être pour ça que les personnes préfèrent mourir, par exemple, avec une vue sur la mer ou sur un paysage ouvert. En tout cas, j'ai échoué complètement à rentrer dans l'esprit d'une proie. J'ai plus appris quand j'ai dormi dans une boîte en carton parmi les SDF sous un pont de Londres.
Donc,
ce livre est en fait un échec. Ouais. De différents points de vue.
Allez, on va se retrouver dans un instant pour la suite de notre discussion et d'autres messages pour vous sur franceinter.fr. Charles Foster est notre invité.
Oh my girl, you know I'll never see the end of things that we just started in the sun. And money never meant a thing to me that way. Oh, my girl, you know we'll never see the end of lies and things we never can get over. And I will never go away into the night. You see me, but I try.
Il y a comme des nids de renards pas loin et ils se reproduisent. Ils ont bien plus peur de nous que nous n'avons peur d'eux.
La Grande-Bretagne compte 50 000 renards, dont 10 000 à Londres. Il n'est pas rare de les voir s'approcher des maisons. La législation ambiguë autorise sous condition de les tuer à l'arme à feu ou de les capturer, ce qui est dangereux, mais interdit de les chasser depuis 2005.
Avec ses nombreux espaces verts, Londres a toujours été une terre d'accueil pour les renards. Mais ces animaux s'approchent de plus en plus près des maisons, notamment à cause des poubelles qui ne sont pas toujours recouvertes. Les animaux viennent ici se nourrir, ce qui les rend de moins en moins craintifs et donc de plus en plus dangereux.
Voilà, reportage qui avait été diffusé en 2010. Charles Foster, votre expérience avec les renards. Est-ce que ça a été facile de suivre la vie d'un renard urbain à Londres?
C'était les animaux les plus faciles parmi ceux qui sont couverts dans ce livre.
Comme
nous, ce sont, ils ont de bons yeux, de bons nez, de bonnes oreilles, et nous aussi, nous avons développé tous nos sens. Et j'ai appris par le renard comment on peut vivre à Londres.
Ils vivent
d'une façon très intensive. Ils sont plus londoniens que les londoniens.
Oui. Evelyne demande, est-ce qu'il y aura un film à propos de votre expérience, Charles Foster?
There's going to be a movie.
Oui.
Which is being made by Sovereign
un
Films.
Film sera fait par Sovereign Films.
Dramatized account, so
c'est une dramatisation. Je ne sais pas quelle sera l'histoire finale ou quel sera le héros, mais c'est très excitant.
Et vous n'avez pas le nom de l'acteur qui campera votre rôle?
Je ne sais pas quel acteur jouera mon rôle.
Jean-Paul demande, est-ce qu'il y a des espèces avec lesquelles vous n'avez pas réussi à vous mettre dans la peau d'une bête?
Humans.
L'être humain.
Humans are hugely complex.
L'être humain est très complexe. Bien sûr, j'ai quelques avantages, car je suis un être humain.
Mais
je ne sais pas si mes conversations avec mes amis sont toujours très directes. Évidemment, c'est une boutade, mais j'ai fait peu de progrès en ce qui concerne me mettre dans la peau de ces différentes bêtes, mais il y avait parfois des petits instants où j'avais l'impression d'avoir compris quelque chose. C'était un effort d'empathie qui valait le coup. Parce que l'empathie est plus facile plus on y travaille. Et si je peux comprendre un peu sur la perception de renard, par exemple, peut-être que je peux mieux comprendre ma femme, mes enfants ou mes amis.
Et alors comment on se met dans la peau d'un oiseau, d'un martinet? En quoi a consisté l'expérience? Vous dites finalement la seule condition pour parler de ces oiseaux, c'est d'habiter les mêmes mondes qu'eux. Mais alors l'univers de l'oiseau, c'est le ciel.
The swift lives in the sky. The swifts are the most aerial of all creatures.
Le martinet est bien sûr la créature la plus aérienne qui soit.
This summer, a few feet above my study, Oxford will go perhaps four times from Oxford to Concord back without touching anything more solid.
Et vont de l'Angleterre en Afrique, et pendant quatre années, ils ne vont pas toucher par terre. Ils dorment dans les airs, ils ne touchent pas, quelque chose de solide avant le moment des amours. Moi, j'ai essayé de me mettre en haut d'un arbre pour identifier les courants qui portaient les différents planctons qui nourrissent les martinets. J'ai suivi leur route migratoire à travers l'Europe jusqu'en Afrique. Mais bien sûr, surtout ça a été un échec. Donc, ce chapitre est un peu mystique, un peu étrange. C'est peut-être quelque chose qui peut faire un lien entre l'humain et l'humain et le non-humain.
Charles Foster, quelle est la conclusion au fond de cette expérience inouïe? Qu'est-ce que ça vous a appris réellement de vous mettre dans la peau de ces cinq animaux?
Tout d'abord,
nous avons cinq sens formidables.
They are switched off.
Et la plupart du temps,
simply
on ne s'en sert pas.
To what's
si
into
on prêtait plus attention
time, can,
aux informations qui nous arrivent par nos sens, on pourrait mieux comprendre le monde. Nous avons au moins cinq sens. On se sert presque uniquement de la vision. Quand on prend une décision sur une situation ou sur l'être humain, c'est basé sur 20% des renseignements, c'est-à-dire des renseignements visuels. Deuxièmement, nous avons une attitude envers le monde naturel qui manque totalement d'empathie. Je dirais même que c'est une psychopathie.
C'est donc la morale, finalement, de cette histoire et de ce livre, Dans la peau d'une bête, quand un homme tente l'extraordinaire expérience de la vie animale. Ça vient d'être traduit en français et ce livre vient de sortir chez Jean-Claude Lattès. Merci Charles Foster d'être venu nous en parler et merci à vous Grace Costin pour la traduction. Merci.
Great to talk to you. Thank you very much.
Merci beaucoup.
La chronique de Pierre Barthélémy, en partenariat avec le supplément Science et médecine du monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Aujourd'hui, vous nous parlez de chagrin d'amour.
Oui Mathieu, c'est l'histoire d'un homme, appelons-le François. Il le savait, François, son idylle avec Marianne, touchée à sa fin, ça faisait 5 ans qu'il l'avait séduite en s'imaginant qu'elle et lui ce serait pour longtemps. Mais la romance était bien terminée, François, qui avait voulu jouer l'amant normal, n'avait plus du tout la cote auprès de Marianne. Alors après 5 ans de liaison, on lui avait annoncé, à la manière de Sacha Guitry quittant l'une de ses femmes, « Faisons la paix, veux-tu, séparons-nous » et il avait dit oui, il s'était résigné à la voir partir au bras d'Emmanuel, un plus jeune que lui. François éprouvait la solitude d'un capitaine de pédalo perdu au milieu de l'océan et c'était dur, car la douleur qu'engendre une rupture est bien réelle. Des études montrent que le risque de tomber en dépression est multiplié par 20 lorsqu'on vient de se faire larguer comme une bouse. Dans un article publié en mars, une équipe américaine a donc voulu savoir comment soulager les peines de cœur.
Alors comment on fait ? On prend un simple médicament ?
Vous y êtes presque Mathieu, mais plutôt que d'expérimenter un médicament, ces chercheurs ont testé l'effet placebo. Si ce dernier peut vaincre certaines maladies ou atténuer la douleur, pourquoi ne soignerait-il pas les souffrances sentimentales ? Pour le vérifier, ils ont invité 40 personnes qui venaient de se faire plaquées à se glisser dans une machine à IRM. Là, elles étaient soumises au test suivant. On leur montrait la photographie de leur ex. Regarde bien ton grand amour, ça fait mal, hein ? Et on soumettait leur avant-bras à un dispositif chauffant, plus ou moins brûlant, histoire de comparer douleur psychique et douleur physique. À chaque fois, les sujets devaient dire comment ils se sentaient, tandis que l'IRM passait leur cerveau à la moulinette. Après ce premier round, on administrait aux patients un spray nasal, une simple solution saline. Mais les expérimentateurs disaient à la moitié des cobayes que le produit était, je cite, « un analgésique puissant, efficace pour réduire les douleurs émotionnelles ». À l'autre moitié, le groupe témoin en affirmait que le spray ne faisait qu'améliorer les images IRM. Puis tout le monde retournait dans la machine où on recommençait un second round de torture.
Et alors, quels ont été les résultats, Pierre ?
Pour le groupe qui pensait avoir reçu un analgésique, la peine de cœur était significativement réduite et plus que la sensation de brûlure. L'imagerie a montré que sous placebo, le cerveau réagissait différemment lorsqu'apparaissait la photographie de l'ancien partenaire. Les auteurs de l'étude se demandent donc si, pour un amoureux éconduit, le simple fait d'espérer une amélioration de son état n'améliore pas son état en libérant dans le cerveau des molécules du bien-être. Alors si vous croisez François, dites-lui que se réchauffer le cœur commence dans la tête.
Mais il nous écoute certainement, Pierre.
Il a du temps maintenant.
On retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu du supplément ?
Cette semaine, le grand dossier est consacré au Muriqui, un singe hippie qui a pour devise « Faites l'amour, pas la guerre ».
Oui, il est très intéressant ce singe, effectivement.